Alexandre Cormon vous présente le podcast « Écris ta légende ». Le podcast qui vous permet de libérer votre puissance intérieure, vaincre vos fausses croyances et atteindre tous vos objectifs.
Bienvenue à toi, tu es dans Écris ta légende, le podcast qui est là pour t'aider à libérer ta puissance intérieure. Et aujourd'hui, j'ai une invitée très spéciale. Je te cache pas que ça a été difficile de l'avoir en interview parce qu'elle est busy. Tout le monde la connaît. Elle est extraordinaire. Elle est gentille quand même. J'ai nommé Chloé Bloom. Salut Chloé, comment tu vas?
Merci Chloé. Merci beaucoup Alex. Là, quelle entrée. Je suis busy, mais pas tant que ça quand même. Faut pas abuser.
Franchement,
je suis super contente d'être là.
Certains ministres français que je suis en train de
dire. Oh là là.
Me dit mais qu'est-ce qui se passe? Mais non, plus sérieusement, ça me fait tellement plaisir que tu sois là. C'est... En fait, tu es l'une des rares personnes. Je me suis dit, je vais la voir le moment où je suis rodé en interview, le moment où j'ai préparé mes questions, où j'ai demandé à ma communauté qui te connaît justement parce que tu es coach, tu es mentor, tu es entrepreneur. Tu es aujourd'hui une figure du développement personnel en France. Est-ce que tu peux, pour les femmes et les hommes qui ne te connaissent pas encore, peut-être juste te présenter en fait, nous parler un petit peu de ton parcours, comment tu t'es lancé en tant que coach et après, on reviendra sur ta légende personnelle.
Ça marche, merci. Donc moi, je suis Chloé Bloom. On me retrouve sur les réseaux sociaux sous le nom de Chloé Bloom. Aujourd'hui, je fais différentes choses. En fait, j'ai différents business. Donc, ça peut être une académie de dev perso en ligne, une marque de vêtements, des coachings. J'ai un coworking holistique à Lyon. En fait, tous ces business viennent soutenir une seule et même mission qui est qu'on va redonner du pouvoir à ceux qui veulent transformer leur vie en les aidant à transformer leur monde intérieur. Donc, bien sûr, ça passe par du développement personnel, de l'empouvoirment, de la spiritualité, parfois du business, enfin, voilà, des choses comme ça. Et je n'ai pas toujours été dans cet univers-là, bien sûr. J'ai été salariée. J'ai fini par faire un burn-out dans le salariat. J'ai envoyé ma démission en plein arrêt maladie. Et puis, j'ai commencé à vouloir vendre, partager des choses que j'avais vraiment dans les tripes qui fonctionnaient pour moi, des choses dans lesquelles je croyais tout simplement. Mm-hmm. Et puis, au bout de 2 ans que je vendais ces programmes en ligne, je me suis dit « Ah ouais, en fait, je suis entrepreneur. » Voilà, mais j'ai eu du mal à le réaliser au début, pour être très honnête. Et puis, du coup, bah, petit à petit, voilà, mon parcours a changé. Au début, j'étais beaucoup dans tout ce qui était naturopathie. Puis ensuite, voilà, avec le voyage, parce que du coup, je suis devenue nomade. Avec le voyage, les rencontres, l'introspection, je me suis rendu compte que mon truc, c'était beaucoup plus l'univers de l'épanouissement, de l'empouvoirment, du développement personnel, la spiritualité, etc. Et du coup, je me suis vraiment positionnée un peu plus dans ce domaine-là. Mais c'est vrai que je n'ai pas une expertise en particulier, j'ai une mission en particulier, plutôt. Je dirais plutôt que c'est ça.
C'est un beau mot que tu viens de nous transmettre, justement. Avant qu'on revienne sur l'aspect... tout ce qui est relation, on va dire, sociale, professionnelle, amoureuse, tout ce qui t'a permis de devenir aujourd'hui qui tu es, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ton enfance, ta personne. Parce que souvent, on voit en fait des personnes, bon, nous, on te suit encore une fois, tu es une coach hyper reconnue, on se dit qu'est-ce qu'elle a de la chance, qu'est-ce qu'elle a de la force. Est-ce que tu as toujours été comme ça? Est-ce que tu as été peut-être une enfant un petit peu avec des peurs, des craintes et tu t'es transformée au travers du développement personnel? Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots?
Complètement. Je pense que toutes les personnes qui... Je pense déjà que toutes les personnes qui soit deviennent coach, soit font ce travail sur elles, c'est forcément parce qu'à la base, il y a une insécurité ou une souffrance ou une envie de transformation. Moi, j'étais ce qu'on appelle le syndrome de la bonne élève. Tu sais, la petite fille sage qui veut tout le temps avoir la validation de papa et maman, des bonnes notes, qui est tout le temps déléguée de classe, que si j'ai un 18 sur 20, je suis au fond du trou parce que c'est pas 20. J'étais vraiment comme ça quand j'étais petite, donc je réussissais bien, très bien à l'école, etc., tu vois. Mais j'avais énormément d'insécurité, peur de pas être aimée, peur d'être rejetée, peur de prendre ma place. Donc j'arrivais pas non plus à prendre ma place, j'arrivais pas non plus à écouter les choses que j'aimais vraiment faire. Je faisais des choses encore une fois par validation, et ça a généré énormément de colère en fait au fur et à mesure chez moi. Et quand je suis devenue voilà, adolescente et ensuite femme, cette colère, elle a pris beaucoup de forme en fait en moi. Elle a pris la forme d'agressivité, elle a pris la forme d'autoritarisme, elle a pris la forme de conflit avec les hommes. J'avais un énorme problème relationnel avec les hommes il y a encore 7 ans, tu vois. Enfin, c'était vraiment un gros problème, un gros truc, un gros dossier. Ça a pris la forme de dégoût de soi, de dégoût de mon corps, de complexe, de non-acceptation, de désamour. Enfin voilà, ça a pris plein de formes. J'ai cristallisé tout ça dans mon corps. Donc non, j'étais pas du tout dans cet épanouissement il y a encore quelques années en arrière.
Je suis toujours sur un déclic.
Il y en a eu plein de déclics.
Alors, est-ce qu'on
Plein.
peut parler du premier déclic? Ce qui m'intéresse, tu vois, c'est vraiment ce premier moment où tu t'es dit, soit je veux quelque chose de différent, soit j'ai lu ce bouquin, tiens, ça m'a ouvert les yeux là-dessus. Est-ce que tu peux nous parler de la première fois où tu t'es dit, j'ai envie de quelque chose de différent?
Ouais, les relations amoureuses. Les relations amoureuses, échec sur échec, schéma répétitif, ça a été le plus gros déclic. J'étais une femme qui mentait, qui trompait, et qui après était surprise de la fin du couple. Enfin, tu vois, j'étais vraiment malsaine en fait par rapport à moi et par rapport à la relation de couple et la relation aux hommes. Et en fait, un jour, ça s'est très très mal terminé. J'ai une de mes relations qui s'est très mal terminée où j'ai subi de la violence. Donc de la violence physique, de la violence morale, où du coup derrière cette personne a retourné beaucoup de personnes qui m'étaient très chères contre moi, que j'ai perdu de ma vie du coup. Et ce jour-là, ça a été un énorme déclic pour moi parce que je me suis regardée dans le miroir en me disant, en fait, tu vois, toute cette situation, elle est arrivée parce que tu passes ton temps à mentir, à te mentir à toi-même, à mentir aux autres, à mentir sur qui tu es, à enjoliver ton passé, enjoliver qui tu es, enjoliver ce que tu penses, à porter des masques. Donc, quelque part, t'en es totalement responsable. Et ce jour-là, je me suis fait la promesse de ne plus jamais mentir à qui que ce soit, à aucun homme, ni à moi, ni à mes parents, sur rien du tout. Et ça a été game changer. J'ai attiré l'homme de ma vie. Ça a été, en fait, ça a été un cadeau que de me faire ce don de sincérité quelque part. Voilà.
C'est hyper puissant ce que tu nous transmets. Comment tu as trouvé cette force? Parce qu'on aurait pu trouver des excuses, on aurait pu se dire, je vais faire ce don de sincérité, et puis 3 semaines plus tard, non, finalement, c'est plus facile de retomber dans mes schémas. Comment tu as trouvé cette force d'affirmer finalement ce besoin de sincérité au quotidien?
Tu sais, moi, je vois pas ça comme une force au final. Sur le coup, j'ai eu l'impression que ça me demandait beaucoup de courage, mais surtout, je sais que dans le moment, j'avais pas l'impression d'être courageuse. Dans le moment, j'avais l'impression que c'était ma seule option. C'était ça où je finissais, où j'arrivais plus à avancer en fait. Tu sais, c'est ce point de rupture où tu arrives dans la vie où en fait, tu es face à un mur et tu dis, OK, c'est soit maintenant je fais le changement, soit je me crache contre ce mur et c'est terminé. Et ouais, en fait, sur le coup, je me disais, il n'y a pas d'autre solution possible, il n'y a plus d'autre issue possible. Je suis en train de tout perdre. Je suis en train de perdre les gens que j'aime. Je suis en train de perdre les personnes qui m'intéressent le plus, que j'aime le plus. Je suis en train de me perdre. Je suis en train de perdre mon corps. Je perdais tout de moi. Je perdais vraiment tout. Et c'était juste plus possible, en fait. C'était la seule option envisageable. Donc, sur le coup, ça n'a pas été forcément quelque chose de courageux. Par contre, à tenir dans le temps, je peux te dire que c'est quand même courageux. Parce que dans le temps, tu vois,
Il y a des
au
petits
départ,
moments où tu t'es dit, j'aimerais
au
bien quand
départ,
même.
les petits moments où je me dis merde, pourquoi j'ai pris cette décision, tu vois. Mais et ouais, et là, c'est courageux. Là, dans le temps, ça vient du courage. Mais en fait, je m'auto-alimente avec ce courage-là en me disant waouh, j'ai eu la force de faire ci, j'ai eu la force de faire ça, donc vas-y, c'est ça que je peux encore le faire. Et puis surtout, quand je vois que j'ai eu la capacité d'être sincère avec un homme à propos de qui je suis. Et comment je suis, et de mes insécurités, et de mes pensées, et de mes émotions, et que j'ai été acceptée entièrement, de la plus belle manière qui soit, n'y a pas plus belle récompense que ça. Il n'y a pas plus beau que de dire, t'es dans la bonne voie. Chloé, t'es dans la bonne voie, donc continue, tu vois. Et ça m'a encouragée, en fait. Et j'ai vu que ça n'était que des cadeaux, en fait, quand t'es sincère.
C'est hyper puissant, c'est émotif. Je sais que les personnes n'auront peut-être pas la vidéo, mais on sent tous les deux ces émotions qui existent. Et je préparais du coup cette interview, j'ai vu un post que tu as réalisé, je crois que c'était juste hier en plus, sur Facebook, où tu parles de Chris, de l'acceptation qu'il a eue de toi. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment tu as fait pour trouver le bon? Parce que tu sais, beaucoup de personnes vont me suivre, alors ce n'est pas l'objet des critères des gens, mais je voulais quand même qu'on aborde ça. Comment tu penses que tu as fait pour réussir à trouver le bon, à être qui tu es aujourd'hui et à construire avec lui quelque chose de beau et de grand, tous les deux.
Ouais. Alors, en fait, on pourrait en parler pendant très longtemps, parce que en fait, quand on s'est rencontrés avec Chris, on était vraiment deux personnalités complètement différentes, deux personnes très différentes, dans des jobs différents, avec des masques différents, avec des histoires différentes. Et aujourd'hui, notre couple est devenu tellement différent, on a tellement, tellement grandi, on s'est reconverti à plein de niveaux professionnels, spirituels, personnels et tout. Et c'est un travail qu'on fait ensemble. Donc, je dirais que comment j'ai trouvé cette personne qui est capable de faire le chemin avec moi et d'être engagée dans ce chemin-là, c'est avant tout en apprenant à être seule. Donc, j'ai appris à être seule, à aimer être seule surtout, pas à juste être seule, à aimer être seule et à me donner de l'amour à moi. avant toute chose, plutôt que de constamment chercher la validation à l'extérieur, le mec qui me redonnerait confiance en moi, alors qu'on sait très bien que ça n'est pas possible et que ça n'existe pas, c'est jamais assez. Y a eu aussi beaucoup pour moi cette notion de colère à essayer d'évacuer, lâcher prise, changer ma perception sur les hommes. J'étais constamment en colère, j'étais complètement révoltée, mais cette colère, au final, qui était tournée contre les hommes, elle était tournée contre moi. De jamais être assez féminine, de pas être assez douce, de pas être assez belle, de pas être assez bien fichue, de pas être assez dans l'amour, de pas être assez bienveillante. J'avais aucun amour de moi, mais vraiment, enfin, c'était une violence. Même là, quand j'en parle, ça me saoulait le cœur et la gorge, tu vois. J'étais tellement violente avec moi-même, et j'ai appris, en fait, si tu veux, petit à petit à déconstruire ça. Et quand j'ai rencontré Chris, je me suis dit, en fait, tu sais quoi, je vais tout lui dire de moi et je vais tout de suite lui montrer qui je suis. Pas de séduction, pas de masque, pas de stratégie, juste qui je suis. Et si ça passe pas, c'est que c'est pas lui. Et en fait, c'est passé tout de suite. C'est passé tout de suite, et ce qui m'a fait tomber amoureuse de lui, c'est de voir qu'il était capable de m'aimer entièrement, comme j'étais, avec tous mes côtés les plus dark et mes côtés les plus lumineux, tu vois. Et vice-versa, en fait. Et vice-versa, je dis pas que ça a été facile. On a connu des périodes extrêmement challengeantes dans notre couple. On a atteint des points de rupture, on a failli se séparer. On a vraiment traversé beaucoup de trucs très, très, très chauds. Mais en tout cas, voilà, j'ai un partenaire avec qui je fais le travail, la construction, parce que je pense qu'un couple, c'est pas qu'au début. Je crois que le travail est encore plus difficile plus les années passent. Et c'est tout ce truc d'entretien, et c'est un travail de tous les jours, en fait. Un engagement de tous les jours.
Je pense que tout le monde sait ça aujourd'hui grâce à ce que tu transmets. Et puis, quand on pense aux relations sentimentales, rien n'est simple, rien n'est facile, ça demande du boulot. Mais quand c'est puissant, on l'entend, tu vois, à votre niveau, c'est sûr que ça donne un accès au bonheur qu'on n'avait même pas encore imaginé. C'est un amour qui est beaucoup plus fort qu'on pourrait le penser. Et ça m'amène vers une question que j'aimerais te poser. Je me suis demandé, pour toi, c'est quoi ta plus grande force au quotidien? Qu'est-ce qui te permet d'inspirer des dizaines de milliers, voire même centaines de milliers de personnes? Quelle est ta plus grande force personnelle?
C'est très marrant parce que là, à l'heure actuelle où on parle, je suis en plein mastermind, et hier, je suis venue avec la problématique j'ai perdu ma force. Enfin, en fait, je suis venue avec la problématique que je ne sais plus quelle est ma force, je ne sais plus quel est mon super pouvoir, j'ai besoin de reconnecter avec ça et j'ai besoin de savoir ce que c'est. Et en fait, depuis hier, j'ai fait un gros travail dessus, donc avec les personnes du mastermind, ma communauté, etc. Et donc là, j'ai enfin la réponse depuis à peine quelques heures.
Génial, c'est bon, on est bon là. On est bon.
Ouais, c'est bon, on a la réponse. Alors que tu vois, je l'ai eu pendant plein d'années, mais là, je l'ai reperdu. Et là, c'est bon, c'est revenu. Je pense que je pourrais te dire mon leadership, parce que je pense vraiment que mon leadership, c'est ce qui fait aujourd'hui ma plus grande force, que ce soit avec mon équipe, mon business, etc., dans un groupe. Mais finalement, le leadership, qu'est-ce que c'est? Je pense que le leadership, c'est la vision, l'amour et la réassurance qu'on est capable d'apporter. Et je pense que ma plus grande force, c'est ça, c'est d'être capable de savoir exactement où je veux aller. Ça, personne ne peut l'enlever de ma tête. D'avoir le courage d'y aller. Je suis quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage émotionnel. Et d'emmener les gens avec moi. Voilà, que ce soit des gens que j'aime ou des gens de la communauté. Ouais, je crois que c'est ça.
Ce qui est marrant, en fait, c'est que... Alors, je vais un peu schématiser grossièrement. Mais aujourd'hui, j'ai vu que ta communauté était extrêmement féminine. Il y a des hommes qui, aujourd'hui, te suivent. Il y a des hommes qui, ton premier discours a été peut-être plus féminin, en tout cas plus porté sur qui tu es. Et aujourd'hui, c'est plus grand que toi, même, j'ai envie de dire. Parce que moi-même, je me surprends, entre guillemets, dans le sens où, oui, je vais lire tes posts, je vais m'identifier à ce que tu dis, je vais être représenté à ça. Donc, c'est aujourd'hui quelque chose d'assez puissant, c'est que tu touches toutes les âmes. On peut être un enfant, on peut être un parent, on peut être un homme, on peut être une femme. Et je trouve que c'est une énorme force que tu transmets au quotidien, justement, de croire en ta vision, de savoir où tu veux aller. Mais alors, la question que je vais te poser, forcément, c'est... Mais moi, je me suis dit, dans la tête de Chloé Bloom, où est-ce que tu vas aller, quoi? C'est où est-ce que tu veux aller?
Le chemin apparaît en avançant. Tous mes mentors me disent ça. Donc, moi, je marche, je ne m'arrête jamais. Et je sais que la direction va changer. Je sais que là où je veux aller dans 2 ans, ça ne sera sûrement pas là que je vais aller, et que ça va être un peu à côté ou ça va être autre chose, tu vois. Et je lâche vraiment prise sur le résultat. Mais je sais exactement comment je veux marcher. Je sais que je veux faire que des choses qui sont vraiment intègres pour moi, en tout cas, qui collent vraiment à mes valeurs. Donc, dans la sincérité, dans l'amour, dans le partage, que des choses que j'ai dans les tripes, des choses que je kiffe aussi. Donc ça me demande même parfois de prendre des décisions dans mon business de faire moins, de faire moins de business, moins d'argent, moins de choses importantes, impactantes, tu vois, pour revenir aussi à de la simplicité, de la sincérité, du kiff, etc. Pareil pour le couple, en fait. Si tu veux, je me focalise beaucoup plus sur, OK, où est-ce que j'ai envie d'aller là à court terme, mais je m'arrête jamais, je suis constamment en fait en mouvement, en mouvement, en mouvement, et je sais que j'irai au bon endroit. C'est évident. Et tant qu'on s'écoute, je pense, tant qu'on est très connecté à ce qu'on aime, à nos valeurs, à ce qu'on a dans nos tripes, à notre confiance, à notre intuition, je pense qu'on va vraiment au bon endroit.
Ça veut dire que je vais te challenger un petit peu, si tu me le permets.
Ouais.
Moi, tu vois, depuis le début, je dis, je vais être le Tony Robbins de l'amour. Mon but, c'est de faire des conférences partout dans le monde. Et j'ai cette vision en tête et je sais que je vais y arriver aussi. Tu vois, grâce à la force que tu nous transmets, on a un petit peu la même énergie. On sait que quand on est en mouvement vers ce qu'on aime, c'est quelque chose d'important. Est-ce que, tu vois, ça fait 15 ans que je répète cette phrase, presque 15 ans maintenant. Est-ce que toi, tu as une phrase comme ça? Est-ce que tu veux être la Oprah Winfrey? Est-ce que tu veux être X ou Y? Ou est-ce qu'il y a une situation, une image qui te vient en tête ou pas du tout?
Carrément. Alors moi, il y a un an et demi, je disais, je voulais être le Tony Robbins au féminin en francophonie.
D'accord, ok.
Tu vois, on n'a pas matché pour rien.
Bon, il me copie beaucoup, je sais, c'est pas grave.
J'avoue.
Oh, c'est hyper puissant.
Maintenant, vraiment, je t'avoue que ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé ces derniers mois et que j'ai beaucoup de doutes, beaucoup moins de certitudes qu'avant par rapport à ce que je veux devenir parce qu'il y a des choses qui étaient importantes pour moi avant qui le sont moins aujourd'hui parce que je suis plus motivée par les mêmes choses parce que voilà, le fait d'être beaucoup mise en avant, c'est aussi quelque chose dont je souffre parfois, tu vois. Donc je suis plus tout à fait sûre que c'est là où j'ai envie d'aller. Par contre, je sais exactement que j'ai envie d'impacter énormément de gens. J'ai envie que les gens apprennent ce qu'on devrait apprendre à l'école depuis qu'on est tout petit, tout simplement. En fait, on devrait savoir comment communiquer avec le sexe opposé ou même avec notre propre sexe. On devrait apprendre à comment aimer, juste comment s'aimer. On devrait apprendre à nommer nos émotions, on devrait apprendre à méditer, enfin tout ça, on ne l'apprend pas depuis tout petit. Et moi, je sais pourquoi je suis là quelque part. Et c'est vraiment ce truc qui m'anime. C'est, je veux avoir cet impact-là, de pouvoir vraiment remettre les gens au pouvoir de leur vie, en fait, leur redonner les rênes parce qu'ils les ont finalement. Ils les ont. Donc, c'est vraiment ce truc-là. Je ne sais pas exactement quelle forme ça prendra. Je ne sais pas si je ferai de la scène un jour. Je sais que je vais écrire des livres, j'en suis convaincue. C'est une évidence. Je pense que je ferai des scènes aussi parce que j'aime bien le contact humain et tout. Maintenant, je pense que j'ai plus trop envie de me fixer un objectif de taille de business ou même de notoriété parce que ça, c'est uniquement ma perception, mais moi, ça m'a mis de la pression qu'en fait, sur le long terme, devenait un peu paradoxal avec mon besoin de sérénité et de paix que j'ai aujourd'hui.
Je te comprends à 200% parce que bon, comme tu es super ouvert dans ce podcast, moi aussi, je vais m'ouvrir aux personnes qui vont nous écouter. Mais pendant longtemps, donc, je t'ai parlé de cette image de Tony Robbins et aujourd'hui, je me dis oui, mais ça implique certains sacrifices qui ne sont pas toujours évidents à réaliser, type bah, passer moins de temps avec sa femme, passer moins de temps avec ses proches, avec ses amis. On sort d'une pandémie, ça fait 2 ans que je n'ai pas vu ma famille. Je me suis reposé aussi des questions à ce niveau-là. Et c'est ce que tu dis, en fait, c'est que le voyage humain, il est perpétuel. Tout à l'heure, je t'ai coupé un peu rapidement à ce niveau-là, on reviendra là-dessus, c'est que le développement personnel, c'est infini en fait. Et on peut avoir une image, elle peut changer, elle peut revenir, elle peut partir, mais il faut accepter de pivoter, il faut accepter justement de changer d'une certaine façon. Donc, je comprends parfaitement ce que tu veux transmettre. Par contre, il y a un point qui est essentiel et je pense que là, tu es en train un petit peu de nous arnaquer parce qu'on avait dit qu'on allait faire une scène ensemble. Je ne sais pas si tu te souviens, on avait dit qu'on allait créer un truc ensemble. Donc, la scène, c'est obligatoire. Je tiens à le préciser parce qu'après, sinon, tu vas là, comme il y aura de l'écoute, il y aura des personnes qui vont nous écouter, qui vont dire « Ok, Chloé et Alex vont faire une scène. J'ai invité Chloé à un événement. »
Okay, là, tu m'as engagé contre ma volonté, quoi, en fait.
Non, on en avait parlé ensemble.
Non, mais je rigole. Non, en plus, la scène, grave, avec grand plaisir. C'est juste qu'avant ça, je vais avoir besoin d'un ou une coach, je pense, parce que j'ai les chocottes. C'est tout.
Forcément, c'est normal. Mais en tout cas, on a tellement envie de te voir sur scène. C'est obligatoire. Donc, je suis en train de l'embêter. Vous voyez comment on peut embêter son coach préféré ou pas? Du coup, je continue, Chloé, avec une question. Parce que là, du coup, ça m'intrigue. Est-ce que tes parents, ils ont été OK quand tu t'es lancé en tant que coach? Est-ce que tes proches ont été OK? Est-ce que tu as eu du soutien? Ou est-ce que tu as entendu le « tu vas te planter »
Ni l'un ni l'autre. En fait, j'ai pas eu de soutien pendant, je dirais, mes 3 premières années d'entrepreneuriat, sachant que là, je suis dans la 4e. J'ai pas eu de. Enfin, en tout cas, je me suis pas sentie soutenue du tout. Ça a été une grosse souffrance pour moi. Mes parents, en fait, si tu veux, avant, j'avais un poste, j'étais cadre sup dans une boîte. Et voilà, j'ai fait ce burn-out et j'ai tout plaqué alors que j'avais rien derrière en me disant s'il faut que j'aille promener des chiens, travailler au McDo, faire du babysitting, je le ferai. Mais là, c'est ma santé, tu vois, c'est ma santé. Et bon, finalement, voilà, bah, je me suis lancée derrière, ça a cartonné. Mais ça aurait pu ne pas être le cas. Au début, mes parents comprenaient pas du tout parce que. J'ai commencé en utilisant quand même le canal d'Instagram pour lancer mon business. Et Instagram a quand même une image hyper superficielle, tu vois, faut le dire. Même encore aujourd'hui, quand quelqu'un qui ne me connaît pas voit juste ma page Instagram, tout le monde se dit « ouais, c'est bon, c'est juste une Instagrammeuse ». Enfin voilà, tu vois, il y a quand même une image un peu superficielle d'Instagram. Donc mes parents, c'est vrai qu'il y a eu ce réflexe de mais qu'est-ce qu'elle fait quoi, mais n'importe quoi, bon écoute, on verra. Après, ils me font confiance, ils m'ont toujours fait confiance, ils savent que de toute façon, quand j'ai une idée en tête, je parviens toujours à mes fins. Donc si tu veux, ils m'ont vraiment fait confiance, et ça, je trouve que c'est une grande preuve d'amour, tu vois. Donc ils m'ont pas mis de bâton dans les roues, ils m'ont pas découragée, ils étaient juste perplexes et un peu absents en termes de soutien. Mais ça a été le cas aussi dans mon couple. Au début, mon partenaire était un peu absent, mais parce qu'il comprenait pas en fait ce que je faisais, de quoi je vivais. Et puis quand lui s'est reconverti, c'est devenu complètement différent. Mais honnêtement, ce truc de soutien, j'en ai quand même beaucoup souffert. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, et peut-être que toi, c'est le cas aussi. Enfin, j'aimerais bien que tu nous partages après. Quand on se lance dans cette voie un peu de leadership, on se sent très seul. C'est aussi pour ça, tu vois, que là, je suis en mastermind ou que voilà, qu'on connecte aussi entre nous. Mon coach me dit toujours « leadership is a lonely path ». Et c'est tellement vrai, en fait. C'est tellement vrai quand tu choisis une voie dans laquelle tu es là pour aider aussi et l'idée. Il faut bien juste savoir que tu vas être seul et que du coup, il va falloir que tu t'entoures aussi de tes pairs. Voilà, donc j'ai trouvé du soutien ailleurs, mais du coup, c'est génial parce que ça a aussi fait le tri dans ma vie, en fait, de ne pas être soutenue. Ça a fait le tri dans mon cercle amical, dans plein de trucs. Et puis ça m'a fait resserrer des liens avec des personnes absolument magnifiques, tu vois. Donc, gagnante.
Puissant. C'est vrai que ce n'est pas facile quand on se lance. Moi aussi, j'ai eu très peu de soutien au début. Heureusement, j'ai eu quand même quelques soutiens de potes qui m'ont aidé à accompagner, notamment sur l'aspect vidéo. Donc, ça m'a permis de lancer ma chaîne YouTube, d'avoir vraiment... de le faire avec ses potes, ça change quand même beaucoup de choses aussi. Donc, j'ai eu très peu de soutien, mais j'ai eu les bons soutiens. Et après, au fur et à mesure, j'ai fait l'unanimité quand même. Tout le monde m'a après donné de la force. Donc, je pense qu'il faut d'abord montrer... Comme tu dis, c'est vraiment ça l'entrepreneuriat, c'est que tu dois montrer la voie, croire en ta vision. Parce que si tu n'y crois pas, alors là, tu es encore plus foutu. Mais l'idée d'avoir vraiment un peu de soutien et de montrer que ça fonctionne, que ça marche, que tu sais pourquoi tu le fais... Après, au bout d'un moment, tu as une espèce de leadership, charisme qui permet de faire en sorte qu'on va te suivre. Et j'adore ce que tu dis. La seule grosse contrainte que moi, je vois en tant qu'entrepreneur, c'est que tu as toujours intérêt à être au top. Tu ne peux pas avoir un coup de mou. Sinon, c'est difficile parce que toute ton équipe prend un coup de mou. Tous les gens autour de toi prennent un coup de mou. Et moi, je trouve super fort ce que tu fais. D'ailleurs, j'invite tout le monde à aller te rejoindre sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. C'est plus le canal d'Instagram, donc je mettrai les liens. Mais... on a l'impression que toi, tu montres ta vulnérabilité à chaque poste. Moi, je vais parler de quelques expériences personnelles. Je le fais de plus en plus. Mais c'est vrai que quand je me suis lancé, je cloisonnais ma vie de coach. Toi, on a l'impression que ta vulnérabilité, c'est aussi ta force d'une certaine façon. Est-ce que tu penses que c'est comme ça que tu as pu connecter avec ta communauté en montrant que tu n'as pas des faiblesses, mais que tu as des parties de toi avec des doutes, des hésitations?
100%. Je sais que c'est ça. Je sais que c'est ça qui aujourd'hui fait aussi la différence. Ça dérange beaucoup de gens, mais du coup, ces gens-là ne me suivent pas ou ont arrêté de me suivre. Ceux qui me suivent, c'est aussi pour ça. C'est parce qu'en leur parlant de moi, je leur parle un peu d'eux, en fait. Parce qu'en tant qu'être humain, on a tous des insécurités, des ombres, des parts qu'on a envie de cacher, de mettre un peu sous l'eau, tu sais, comme un ballon de plage, mais ça remonte toujours, tu vois. On a tous ces trucs-là. Et en fait, très peu de gens le disent, alors que... tu sais, who gives a fuck, en fait. Tout le monde a des trucs moins jolis ou plus douloureux, des doutes et des peurs. Et je pense qu'on a besoin justement de cette sincérité, de cette authenticité, de cette vulnérabilité pour connecter très profondément les uns les autres. Donc moi, je sais que c'est vraiment ça qui a vraiment lié des liens profonds avec ma communauté. C'est qu'en fait, cette vulnérabilité que j'ai me permet de les connaître parfaitement. Je connais parfaitement... les personnalités qui composent ma communauté, et je sais qu'en leur parlant de certains aspects de moi, je vais leur parler d'eux, en fait, tout simplement. Et je pense que ça, c'est une force, c'est que même si j'arrive pas à les connaître tous les uns des autres individuellement, sinon ça prendrait vraiment un temps fou, j'arrive vraiment à connaître, tu vois, leurs doutes, leurs peurs, leurs insécurités, puisque je les partage. Donc je me dis, à chaque fois que je peux partager un moment de vulnérabilité, de doute, Ça permet de faire miroir à quelqu'un en face qui se dit ah, ok, et donc le chemin de pensée de Chloé dans cette situation, c'est ça. Ok, je me sens pas seule, je suis moins seule, ben, elle aussi, elle a ça, très bien. Voilà ce qu'elle fait, voilà comment elle rebondit. Et du coup, les gens appliquent, en fait. On a besoin de miroirs pour avancer. Et oui, comme tu dis, en effet, ça impacte l'équipe, ça impacte la communauté. Quand on vibre super bas, quand on est hyper stressé et tout, moi, je le vois bien, ben, direct, mes insécurités, je les transpose sur mon équipe, tu vois, alors que l'équipe Bloom, c'est la meilleure équipe du monde, tu vois.
Après mais l'équipe Caron.
On peut faire un battle. On verra à notre scène qui c'est qui a le plus de pancartes et qui crie le plus fort.
Allez, on fait ça.
mais ouais, ça les impacte forcément. Et du coup, c'est là où prend tout le sens du leadership, c'est de se dire, OK, comment est-ce que je peux être vulnérable, mais que je ne transpose pas mes insécurités sur l'équipe pour qu'elle continue d'avoir foi en notre mission, en elle, en ce qu'elles font. Donc ça, c'est pareil, c'est un job de tous les jours.
Je vais te poser une question challengeante. Tu n'es pas obligé d'y répondre, mais c'est la question qui me vient en tête. T'as pas peur d'en faire des Chloé, d'avoir plein de Chloé Bloom à répétition, en fait. C'est-à-dire que les personnes s'identifient tellement à toi qu'elles veulent être toi et plus elles-mêmes d'une certaine façon. Comment tu trouves ce juste milieu?
C'est hyper intéressant comme question parce que c'est quelque chose que je me suis beaucoup posé en mode je ne veux surtout pas entretenir de fanatisme. Je trouve que c'est pas sain le fanatisme et je ne veux pas que les gens soient fans de moi, tu vois. Et en fait, c'est aussi pour ça en fait que je me rends vulnérable, c'est pour que tout le monde voit que non, bah en fait moi je vais aux toilettes comme tout le monde, je suis malade comme tout le monde, j'ai des doutes comme tout le monde, je m'engueule avec mon mec comme tout le monde, pour juste que les gens voient que je suis une humaine et que si moi je fais des trucs qui sont chouettes, c'est possible pour tout le monde. Donc j'essaie vraiment d'entretenir cette relation d'égal à égal. Je pense qu'on peut être une figure d'inspiration et être très accessible, et c'est exactement ton cas. Enfin, typiquement toi tu t'incarnes parfaitement ça, où t'inspires des centaines de milliers de personnes, mais t'es Alex, c'est notre pote avec qui on va boire un café et qui nous donne des conseils sur la relation amoureuse, tu vois. Mais c'est énorme et c'est exactement moi un peu les messages que je reçois aussi de, en fait, t'es notre copine, tu vois. Et quand on écoute tes podcasts, ben, on a l'impression voilà, d'avoir une pote, on te connaît et c'est d'égal à égal. Et j'encourage et je répète très souvent dans mes messages de toute façon de cultiver notre individualité, de pas essayer de me ressembler et de vivre les choses qui viennent pour elle normalement et surtout que c'est OK de pas être d'accord avec moi.
Excellent. J'adore cette fin parce que c'est vrai. Je l'ai intégré, ça, de dire, OK, c'est OK, je ne détiens pas toute la vérité. On a finalement chacun le droit de penser différemment. Ce qui est important, c'est d'être heureux, c'est d'être épanoui. J'aimerais qu'on vienne sur ta vision, mais juste avant, j'ai une dernière question que je la pose dans tous les podcasts. C'est la question la plus complexe, difficile ou chiante. C'est, est-ce que tu as des regrets aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des regrets dans ta vie où, tu vois, quand tu y penses, ça te tire un peu vers le bas? Ou comment tu gères les regrets?
J'ai fait un gros travail sur les regrets, donc je pense que le seul regret que j'ai, il n'est pas du tout dans mon aspect entreprise, entrepreneuriat. Je pense que le seul regret sur lequel je travaille encore, c'est de ne pas m'être donné plus d'amour que ça quand j'étais plus jeune, de ne pas m'être respectée même dans mes relations amoureuses, dans mes relations sexuelles, dans mes relations amicales. C'est ce truc-là où je ne suis pas encore en paix avec ça, tu vois. Je ne suis pas encore en paix avec la manière dont je me suis manqué de respect. Et je travaille dessus. Et je travaille encore dessus pour accepter ça.
Est-ce que tu crois que c'est important de garder ça? C'est-à-dire de se dire, en fait, je veux avoir des regrets pour toujours être en perpétuelle évolution et pas être dans une zone de complaisance?
Non, parce que, alors, c'est uniquement mon point de vue et je sais qu'il
y a... Ouais, mais c'est super important, c'est pour ça que je te pose la question.
Qui penseront différemment de moi. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir des regrets pour être motivé, pour avancer. Je pense qu'en fait, il y a deux forces qui peuvent nous motiver pour avancer. Il y a soit l'évitement de quelque chose, soit l'adhésion, l'addiction à quelque chose. Et je trouve que justement, quand on est motivé par un regret, c'est qu'en fait, on veut éviter quelque chose. Donc, quelque part, c'est la pénurie qui nous motive. Et je préfère être motivé aujourd'hui par l'abondance et me dire, en fait, je regarde pas du tout en arrière, je suis juste motivée par quelque chose de meilleur, de sain, de ce que j'ai envie. Donc non, moi je pense pas du tout qu'il faut forcément des regrets. Je pense qu'au contraire c'est important d'être en paix avec toutes les versions de Chloé qu'on a été, toutes les versions d'Alex qu'on a été, et ça prend du temps, ça.
C'est clair. Alors justement, aujourd'hui, c'est quoi ta vision dans le sens qu'est-ce que tu proposes à tes abonnés? Je sais que tu as un membership, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent venir avoir des accès de coaching de groupe avec toi, avec d'autres experts. Je suis intervenu certaines fois à ton groupe
et
également.
C'était trop bien.
j'adore aussi. Franchement, c'est énorme. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu, pour toutes les personnes qui vont être touchées par ton discours, qui ont envie d'aller plus loin, qui peut-être ne te connaissaient pas encore, à quoi on peut s'attendre avec toi?
Bien sûr. Alors, je pense que le meilleur moyen de découvrir un peu notre univers avec la team Bloom, ça serait d'écouter mes podcasts. C'est 100% gratuit, donc faites-vous plaisir. Il y en a pour tout. J'ai même des séries sur le couple. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Et pour moi, le podcast qui est hebdomadaire, c'est vraiment l'outil gratuit de transformation le plus puissant que je puisse proposer aujourd'hui. Et les newsletters aussi qu'on envoie chaque semaine qui sont vraiment poussées en termes de prise de conscience, etc. Et ensuite, vraiment, pour les personnes qui ont envie d'être accompagnées, d'aller encore plus loin, on a le membership donc, qui s'appelle la Bloom Academy, en effet, où tous les mois, on va aller travailler sur des thèmes en particulier. Tu vois, le mois de décembre, c'est les conflits familiaux. Le mois de janvier, c'est l'énergie Kundalini. Donc voilà, il y a vraiment plein d'aspects différents où les experts comme Alex viennent. Et puis ensuite, on a des coachings, on a des retraites qui vont arriver en présentiel. Là, je fais des soirées aussi d'expansion de conscience en ligne où en fait je bascule les gens dans des états de conscience modifiés pour aller libérer des traumas, des choses comme ça. Il y a plein de choses. Pour moi, le commencement, c'est le podcast.
Génial. On va mettre tous les liens, toutes les informations. On va te suivre à fond en attendant la fameuse scène qui va être un jour en France. Tu as parlé de coaching. Est-ce que c'est toi qui réalises des coachings? Est-ce que tu as des coachs avec toi? Comment ça se passe?
Les deux, en fait, les deux, mais là, c'est un produit que j'arrête.
D'accord, ok.
Donc, je ne vais plus proposer, qui se finit là, d'ailleurs, à la fin de la semaine, que je ne vais plus proposer pour pouvoir me recentrer sur des choses avec lesquelles je suis plus alignée, et notamment pouvoir aussi accompagner notamment des coachs, des thérapeutes. Je sens que j'ai envie d'accompagner des leaders pour augmenter leur impact. Donc, voilà.
Puissant. On va suivre ça de très très près. Chloé, je te remercie beaucoup. Je sais que, encore une fois, j'ai dit tout à l'heure en rigolant, mais je sais que tu es quand même hyper busy, que tu réalises beaucoup de choses. C'est un honneur de t'avoir ici pour ce podcast. C'est un honneur de pouvoir échanger avec toi. Et puis, je sais que tu vas inspirer tellement de personnes. Donc, les amis, on écrit ça à les gens, on met 5 étoiles, un petit commentaire et après, on fonce chez Chloé Bloom. Plein de ressources, son podcast qui est vraiment excellent. Je l'écoutais d'ailleurs. En fait, moi, j'aime bien écouter tout ce qui se passe sur le web des coachs qui m'inspirent.
Ah,
Et
j'adore.
non, mais c'est vrai, c'est hyper puissant ce que tu proposes. Donc, allez-y, les amis, ça va changer. Ça va vraiment vous changer aussi, ça va vous aider. Et puis, Insta, je trouve que c'est hyper puissant les posts que tu fais. Je sais que tu dois y passer beaucoup de temps. Parce que moi, quand je poste sur Insta, c'est vrai, les amis, ça prend pas trop, trop de temps. Je suis pas trop Insta, je suis plus YouTube. Mais toi, ça se voit que tu as le souci du détail sur Insta et que tu nous inspires au quotidien. Donc, merci encore, Chloé. Franchement, c'était super cool.
Merci beaucoup Alex, c'était génial, un vrai plaisir. Merci.
À bientôt les amis, on est sur Écrit ta légende, n'oubliez pas de nous soutenir également l'ONG Rapa au Togo, à Lomé pour les orphelins. On vous fait une grosse bise les amis. Ciao ciao!